Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors ce soir, nous allons parler de la foi. Et je vais vous donner encore des perspectives sur la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose d'indispensable dans lequel vous devez apprendre à marcher. Vous devez savoir, connaître ce qu'est la foi. Vous développez dans votre marche par la foi. Marcher d'une manière, je dirais, intense au niveau de la foi. Parce que si vous n'arrivez pas à marcher dans la foi, vous ne verrez rien s'accomplir. Vous n'amènerez personne à être béni d'une manière ou d'une autre quand vous priez. Vous allez vous retrouver devant vos défis et vos montagnes jusqu'au dernier jour où vous allez vivre sur cette terre. Vous n'allez jamais accomplir votre destinée. Vous aurez une vie de prière misérable. En résumé, vous serez un chrétien frustré qui dira « Dieu est puissant, mais finalement dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui se passe. » Dieu est un Dieu qui veut agir puissamment avec nous. Dieu veut que nous devenions indestructibles. Dieu ne veut pas que tu sois impressionné par des circonstances. Dieu veut que tu réalises grand. Mais tout ça, ça demande de la foi. Ça demande quelque chose qui est indispensable, cet ingrédient de la foi. Ça demande d'en comprendre les principes. Et de savoir réellement marcher dans ces principes. La foi vous amènera là où, je dirais, rien d'autre pourra vous amener. Ça vous attirera la faveur de Dieu, comme on l'a entendu il y a une semaine. Et la marche dans la foi, c'est quelque chose d'indispensable pour le chrétien. Si tu dis que Dieu est puissant, que tu pries, que tu es là à l'église depuis des années, et qu'il n'y a rien qui a vraiment changé dans ta vie, tu dois te poser des questions sur ta foi. Vous savez, dans la vie spirituelle, il ne faut jamais remettre en question Dieu. Le seul que tu dois remettre en question, c'est toi-même. Ne remets pas les autres en question. Ne remets jamais Dieu en question. Mais remets-toi en question. Pose-toi toujours cette question, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qui me manque pour avancer? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Et souvent tu verras que c'est la foi. On va regarder ces textes d'Hébreu 11, parce qu'Hébreu 11 c'est très riche. Et aujourd'hui, bon, on ne va pas revenir sur la définition de la foi, parce qu'on est déjà revenu là-dessus il y a quelque temps. Mais je vais insister sur le verset 6 d'Hébreu 11. Et on va parler de différents types de foi. Et on va parler du type de foi le plus bas. Parce que nous verrons qu'il y a différents types de foi. Le premier type de foi que nous allons étudier, ça va être la foi d'essence.
kubona cyangwa kumva kubona
et donc, gufata on va voir exactement
turaza kubona
comment Dieu s'en sert
ingene Imana ibikoresha
pour amener des gens à Jésus
kugira ngo ifashe abantu kuza kuri Yesu
pour aussi nous provoquer quelque part
yongere inasomborotse ahantu
je vais vous montrer plusieurs exemples
ndaza kubera ku burorero.
Et nous allons voir ça dans l'Écriture. Il y a des choses intéressantes. Je méditais sur ça ce matin. Et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des choses dans la parole de Dieu qui nous
interpellent.
Ensuite, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, nous commencerons à voir vraiment la foi qui est la foi biblique qui vient de la parole.
Et
là aussi, on va creuser ce sujet. Et puis nous verrons le troisième type de foi qui est le type de foi le plus élevé, le plus extraordinaire dans lequel on peut marcher,
qui
est ce qu'on appelle le don de foi spécial. Et là, nous verrons, c'est vraiment Dieu qui nous transmet surnaturellement sa foi. Et là, quand on marche dans ce genre de foi, sur une certaine période de temps, il peut se passer des choses les plus incroyables qui font peur à tout le monde. Parce que vous apprendrez que si vous commencez à marcher dans la foi, soit vous allez subir les moqueries, ou soit vous allez faire peur aux gens. Les gens vont vous voir et vont se dire il est complètement fou, elle est complètement folle. Et vous êtes là et vous marchez sur des trucs les plus incroyables. Les circonstances les plus folles qui essaient de s'opposer à vous. Vous commencez à remplir les visions les plus grandes. Et vous êtes là comme si il y avait quelque chose de surnaturel qui vous couvrait surnaturellement, qui est sur vous, et vous êtes en train de parler des choses, et la puissance de Dieu agit de façon incroyable. Mais ce soir, nous allons déjà parler du type de foi le plus bas. Je vais vous montrer ce que ça va provoquer. La foi des sens. Regardons ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire d'être agréé par lui, d'être accepté par lui. C'est pour ça qu'après il va dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et qu'il récompense ce qu'il cherche. J'étais interpellé par ce petit morceau de verset. Il doit croire que Dieu existe. Comment est-ce que tu peux croire que Dieu existe? Et tu parles à un païen de Jésus. Comment est-ce qu'il peut croire? Je ne parle pas qu'il peut. Qu'il peut dire que Dieu existe et croire réellement que Dieu existe, c'est différent. Réfléchissez bien à cela. Il y a des gens qui vous diront, oui, Dieu existe. J'y crois, mais c'est pas réellement une foi, la foi. Il y a des gens qui vous diront vraiment, je crois que Dieu existe. Et en général, si quelqu'un vous dit, je crois que Dieu existe, il va vous dire, pourquoi? Ou vous êtes en droit de lui poser la question, et lui dire, bon, tu dis que Dieu existe, d'accord, mais dis-moi, pourquoi tu peux prouver? Est-ce que tu peux le prouver? Est-ce que tu l'as vu avec tes yeux? Parce que ça, c'est la question que les pêcheurs ont souvent. On va te dire, d'accord, bon, moi aussi je crois que Dieu existe, mais en fait, le pêcheur n'est pas sauvé. Mais un bon nombre de pêcheurs vous diront, eh bien, effectivement, je crois que Dieu existe. Mais ce n'est pas dans le sens biblique, là, la réponse. La vraie réponse, si tu dis que je crois que Dieu existe, ça veut dire que tu as vu quelque chose de la part de Dieu. La Bible est claire, la Bible nous dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux, parce qu'on ne peut pas voir Dieu avec notre corps de chair. Je vous ai expliqué qu'avec notre corps mortel, nous ne pouvons pas soutenir la gloire de Dieu. C'est impossible. Si quelqu'un montait au troisième ciel avec son corps mortel, son corps exploserait littéralement. Parce que déjà, quand Dieu répand sa présence quelque part, il y a des gens qui tombent par terre, il y a des gens qui tremblent de tout leur être. Quand on est visité par Dieu, notre corps ne supporte pas. Parce que la gloire et la sainteté de Dieu sont là. Et notre corps ne supporte pas ça parce que notre corps est corruptible, notre corps est voué à la destruction. Donc, croire que Dieu existe. Je ne peux pas voir Dieu avec mes yeux parce que certains, vous avez témoigné de Jésus à des gens. Et tu dis, moi, je connais Jésus. Et alors, il y a les paniers à moqueurs qui vont dire, ah, tu as vu Jésus? Il est venu te dire bonjour dans ta chambre à coucher? T'as mangé avec lui? Vous voyez, les païens vont raisonner comme ça. Pourquoi ? Parce qu'eux ont du mal à comprendre certaines choses. Tu dis, je crois en Jésus. Ou j'ai vu Jésus. Ou j'ai vu Dieu d'une manière générale. Dans le sens où tu as vu des manifestations de Dieu. Des manifestations. Ok, réfléchis un petit peu. Dans tous nos témoignages ici, qu'est-ce qui vous a interpellé sur le fait que Dieu pouvait devenir réel pour votre vie? Quel a été l'événement qui vous a donné la certitude que ce Jésus était bien vivant et qu'il était capable de vous sauver? Il y a différentes choses. On pourrait prendre tous nos témoignages ici. Certains, vous étiez malades, il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Vous avez été touché par la puissance de Dieu. D'autres, vous avez vu des gens. Vous avez vu des gens. Qui ont été guéris sous vos yeux ou qui ont prié, qui ont vu leur situation changer sous vos yeux, et ça vous a amené à remettre en question votre arrière-plan spirituel, vos anciennes croyances, parce que vous avez vu certaines manifestations de Dieu, ce qui a provoqué quelque chose chez vous, des questions par rapport au message qu'on vous a donné. Ok, on va regarder quelques exemples. La Bible nous montre un certain nombre d'exemples à propos de cette foi. Cette foi d'essence. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Regardons ensemble dans Jean chapitre 1. Ce sont les premiers disciples que Jésus appelle. On va lire à partir du verset 35. Et vous allez découvrir comment Dieu amène des gens à croire en lui et à croire qu'il est capable de se manifester dans leur vie.
Et
c'est intéressant parce que Jean rapporte des faits que les autres évangiles ne rapportent pas quand Jésus va choisir ses premiers disciples. Je vais lire principalement en français puis on lira quelques versets en kirundi. Verset 35, il est dit, le lendemain, Jean était encore là, Jean-Baptiste, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit, que cherchez-vous? Et leur dit, Rabbi, ce qui se traduit par maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et vinrent où ils demeuraient. Il demeurait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit par Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée, donc dans le nord d'Israël. Et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Regardez bien ce que va dire Nathanaël. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu ? Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi qui es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alors, on peut lire du verset 46 au verset 50, s'il vous plaît.
Ngo Natanayeli aramubaza kuva kuri 46 ati mbega Nazareti hova iciza Filipo aramubwira ati nuze urabe Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga ko ateha umwisirayeli w'ukuri atari mu bugonge Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana ni wowe mwami w'Abisirayeli Yesu aramwishura ati wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni uzobona ibiruta ibyo
On ne sait pas ce que Nathanaël est en train de faire hein, sous l'arbre.
Sinzi ico Nathanaël yari kwarakora munsi y'igiti.
Il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Qu'est-ce que Jésus avait vu?
Bega Yesu ngo yabonye iki benshi bari baje ico kibazo.
Où est-ce que Jésus avait eu une vision de Nathanaël avant qu'ils se rencontrent?
Chanque naho mbere yuko bahura Yesu yaramweretswe.
En tout cas, qu'est-ce qui va provoquer la foi chez Nathanaël?
Uko biri kose niki cyatumye Nathanaël yizera
umwami. Une parole.
Hari jambo.
Quelque chose qu'il va entendre.
Hari kintu yumvise.
Une révélation.
Hari guhishurirwa.
Qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? On ne sait pas. Qu'est-ce que Nathanaël est en train de faire?
Nathanaël yari kwakoriki?
Nul ne le sait. La Bible ne dit pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce que Jésus lui a dit par rapport à cette action a amené Nathanaël à être provoqué dans sa propre foi. Il y a des choses. Là, c'est juste une croyance que Jésus est vraiment le Messie. Il y a des facteurs déclenchants qui amènent des gens à croire dans l'existence de Dieu. Quand je parle de croire dans l'existence de Dieu, ce n'est pas simplement une vague croyance. Mais là, quand je parle de croire en Dieu, parce que souvent il y a un peu de confusion sur cet aspect de croire en Dieu. Le terme réellement croire en Dieu signifie vraiment, c'est vrai que Dieu existe, mais qu'il se manifeste, qu'il peut être personnel. C'est ça le vrai sens de croire, c'est-à-dire qu'il peut agir dans des situations humaines.
Ce
n'est pas seulement avoir une espèce de croyance générale dans un Dieu. Il faut quand même donner cette précision. Quand Hébreu dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. C'est vraiment cet aspect de savoir que Dieu est là et que Dieu peut agir, intervenir dans la vie de l'homme. C'est-à-dire par rapport aux situations humaines. Que Dieu n'est pas un Dieu qui est là très loin, une sorte de bulle comprise, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il devient vraiment personnel par rapport à des besoins particuliers, des besoins humains particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est une précision. Ici, on voit que
Nathanaël
va croire.
atangura kwizera,
va croire.
Acharize.
Pourquoi est-ce qu'il croit?
Kuberiki yizeye.
Parce qu'il a entendu.
Kubera yumvise.
Une parole.
Ijambo.
Qui a provoqué sa foi.
Richari hagurutse kwizera.
Qui a prouvé que Jésus n'était pas quelqu'un de ordinaire.
Rimwereka ko Yesu atari umuntu ameze nk'abantu.
Mais c'était quelqu'un de particulier.
Ariko ko yari umuntu.
Et que ce qu'on venait de lui dire sur Jésus.
Kandi ko ibyo bari baje kumubwira kuri Yesu.
C'était la vérité.
Ari ukuri.
Donc ça c'est une foi d'essence.
Ukuri no kwizera no vuga kubanza kubona.
Dieu donne une parole particulière.
Imana ikavuga ijambo.
Et par exemple,
hamanka karorero,
il y en a certains d'entre nous, on a entendu un jour un sermon d'un pasteur.
Hari nk'abantu sanga muri twebwe twaravuze ubutumwa bwiza umu pastor avuze.
On avait l'impression qu'il parlait de nous.
Hamugasanga umenga ariko avuga wewe
n'abantu. Et ça c'était la foi d'essence au départ, c'est-à-dire que tu as entendu quelque chose.
Ukuri no kwizera no vuga kukwereka ibintu
gukora ku bintu. C'est bizarre.
Ukumva ibintu kamera.
On a l'impression que ce monsieur ou cette dame il connaissait ma situation. Et d'un seul coup, ça t'a provoqué à chercher le Seigneur. Et c'est là où tu as reçu le Seigneur. La foi des sens aussi peut-être peut venir quand on voit des choses, des manifestations de Dieu. On a plusieurs exemples dans la Bible. Dans Acte 8, par exemple. Et c'est typique des évangélistes. Les évangélistes vont provoquer quelque chose parmi les gens qui écoutent et qui voient ce qu'ils sont en train de faire.
Usanga hari ikintu bavyura mu mitima y'abariko bararaba.
Je vous rappelle que le vrai évangéliste,
ce
n'est pas seulement quelqu'un qui annonce l'évangile, mais c'est quelqu'un qui va démontrer l'évangile.
Et
il y a une grande différence entre annoncer l'évangile et démontrer l'évangile. Un vrai évangéliste va amener des gens à être guéris publiquement. Il va y avoir des miracles sur les corps. Et les gens vont réagir par rapport à ce qu'ils voient. Par rapport à ce qu'ils entendent. On voit tout à fait cela avec Philippe. Il est dit au verset 5 d'acte 8. Philippe, descendant dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant, regardez bien ici, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.
Mon Philippe aramanuka ku murongo wa gatanu aja mu gisagara cy'i Samaria abamenyesha ibya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku byo Philippe avuga bashize hamwe bumvise kandi bumvise kandi babonye ibimenyetso akora kuko benshi muri bo bari binjiwemo n'impwemu zihumanye zabavamwo ziborovuga n'amajwi arenga kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa.
Donc pourquoi est-ce que ils écoutaient attentivement ce que Philippe était en train de prêcher?
Abantu benshi ngo bashira umutima ku byo Philippe avuga kubera iki babikoze?
Parce qu'ils avaient vu.
Ni kubera ko ngo bari babonye.
Ils avaient entendu et ils avaient vu.
Ngo bari bumvise kandi babonye.
Et quelque part ils étaient provoqués.
Ils
étaient provoqués dans le message. Donc ce qu'on me dit, c'est vrai. Parce que je vois. Parce que je vois des signes, je vois des guérisons. Je vois quelque chose qui provoque ma foi. Certains parmi vous, vous aviez des amis. Et pendant un temps, vous aviez perdu un peu le contact avec eux. Et puis, vous vous retrouvez quelques années plus tard. Et vous avez l'impression que c'est plus du tout la même personne. Vous voyez une différence. L'œuvre de Dieu dans cette personne. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Le fait de voir. Après, la personne vous a parlé de Jésus. Ça a provoqué quelque chose. Ça a remis en question vos fondations spirituelles. Là, vous vous êtes vraiment posé des questions. Comment celui-ci, mais vous, celle-là, je la connaissais. Oh là là. C'était terrible. Il vivait une vie terrible.
Quelques
années, tu retrouves une personne complètement transformée.
Ou
des gens qui parfois étaient fous ou avaient des problèmes démoniaques.
Ou
étaient malades. Donc, vous entendez, vous voyez quelque chose. Peut-être pas au moment même où ça s'est passé. Mais vous avez vu les effets de la gloire de Dieu. Et les gens ont besoin de cela. Parce que la Bible nous dit clairement. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et pour prouver que Dieu existe, bien sûr, comme dit l'Épître aux Romains, il y a toute la création qui nous prouve qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ça. Comme je le dis souvent, les plus grands scientifiques de la Terre devraient être les plus grands croyants. Pourquoi? Parce qu'ils dédient leur vie complètement à l'étude de la science. Et l'étude de la science, qu'est-ce que c'est? C'est découvrir des lois naturelles que Dieu a mises dans la nature qui fonctionnent selon des lois qu'on essaye de mettre sous forme de mathématiques, d'équations, de règles précises, et après qu'on va essayer de domestiquer, c'est-à-dire d'utiliser. Et ça marche à tous les coups, parce qu'il y a quelqu'un qui a ordonné une loi par rapport à un principe physique ou chimique ou biologique. Et ça marche à tous les coups. Et il y a bien quelqu'un qui a ordonné ça. Et le petit chercheur qui a dédié toute sa vie qui a réussi à domestiquer un milliardième des lois de Dieu et qui a passé des nuits blanches pour chercher à savoir comment ça marchait, il devrait s'asseoir et dire quand même, moi j'ai passé toute ma vie à faire ça, j'ai découvert juste ça, et il y a quelqu'un qui a fait tout ça derrière. Et je n'ai étudié qu'une un tout petit aspect de cette
science.
Les plus grands scientifiques devraient être les plus grands croyants. Je n'arrive jamais à comprendre comment les plus grands scientifiques se disent athées. Ça me dépasse. Parce que la création entière nous dit que c'est la révélation de la gloire de Dieu. Toute la création. Quelqu'un qui est un amoureux de la nature. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils voient, ah, c'est extraordinaire la nature, ce que c'est beau. Et puis 30 secondes après, ils vont vous dire, moi je ne crois pas en Dieu. Quelque chose qui ne va pas ici. Ils admirent quelque chose que quelqu'un a fait. Ils sont en admiration devant toutes ces choses. Et ils vont dire,
ariko,
je ne crois pas en Dieu.
C'est
quelque chose qui tourne pas rond chez l'homme souvent. Mais savoir que Dieu, entre guillemets, existe, parce qu'on voit un certain nombre de choses autour de nous,
savoir, ce
n'est pas suffisant. Les gens ont besoin de savoir que Dieu est quelqu'un qui peut devenir personnel.
Vous
voyez, souvent dans les credos de l'église traditionnelle, on dit, par exemple, Jésus est mort pour le péché du monde. Bon, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas personnel. C'est quelque chose de général. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, la nature, c'est merveilleux, et il doit bien y avoir un Dieu quelque part. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça mène en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu se rencontre personnellement. Dieu se manifeste à Et l'homme a besoin de voir des manifestations de Dieu. Pour se dire que derrière tout ça, il y a quelqu'un.
Et
ici, quand Philippe a commencé à chasser les démons, et vous voyez, là, les démoniaques criaient d'une voix forte. Et c'est vrai que parfois, quand il y a des délivrances, ça impressionne les gens.
Des fois,
c'est drôle. Des fois, je regarde les réactions des gens quand il y a des démons qui sortent. Pourquoi? Parce que ça impressionne les gens. Parce qu'on voit un esprit satanique qui sort d'une personne. D'un être humain créé à l'image de Dieu. Qui est en train d'être délivré. D'une possession satanique. Mais ça montre la puissance de Dieu. Là, ici, il y avait des guérisons. Des miracles. Et là, les gens étaient provoqués quelque part. Et les humains ont besoin de cela. C'est pour ça que les évangélistes sont moins avec ces dons-là. Parce que les gens ont besoin de voir et d'entendre. La Bible nous dit, verset 8, il y a une grande joie dans cette ville. Ça provoque toujours beaucoup, beaucoup de remous parmi les émotions des gens. Et si vous lisez la suite, il va y avoir plein de gens qui vont se convertir ce jour-là. Alors, ce n'est pas le seul cas. On peut voir, par exemple, dans Acte
9.
Là encore, quelque chose qui va se produire, et je vais faire une parenthèse après. Verset 31, il est dit la chose suivante, c'est la résurrection de
Tabitha.
L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. La Judée, je vous rappelle, c'était au sud, la Samarie au milieu et la Galilée au nord d'Israël. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et toi-même arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Lis le verset 34, s'il te plaît, seulement le verset 34.
Ngo Petero aramubwira 34 ati Aineya Yesu Kristo aragukijije vyuka Aineya wizingirikirago aca vyuka ko kanya.
Donc Pierre guérit un paralytique.
Ga Petero akiza Aineya umuntu yaramugaye.
Un homme qui est paralysé depuis 8 ans.
Umuntu amaze imyaka 8 amugaye.
Il donne une parole.
Hazi jambo.
Et d'un seul coup, il se lève. Jésus-Christ guérit. Pouf, il se lève. Maintenant, regardez bien verset 35. La réaction à la manifestation de Dieu. Il est dit tous les habitants de Lydda, donc cette ville, et de la plaine de Saron, le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait un homme de Dieu comme ça un jour qui était donc invité dans une île pour prêcher. Et dans cette île, il y avait une fille qui avait été possédée d'un esprit satanique qui était sorcière. Et en fait, cette fille qui était sorcière, qui était possédée par cet esprit, cet homme de Dieu a prié pour elle et l'a délivrée entièrement. C'était une fille qui était très connue pour sa sorcellerie. Et elle a été instantanément, complètement, totalement délivrée. Ceci a provoqué un réveil dans cette île. Dans cette île, il y a eu un grand réveil. Tout le monde en parlait.
De grands
miracles provoquent la foi pour le salut.
C'est
souvent ce qui se
passe.
Parce que les gens ont besoin de voir que Dieu est réel. Que Dieu est puissant. Très souvent, nous témoignons de Jésus aux gens. Mais je suis persuadé que nous aurions beaucoup plus de résultats. Si nous disions aux gens, ok, avant que tu donnes ta vie à Jésus, je vais prier pour toi. Dis-moi un des problèmes que tu as.
Il vient
pour vous dire, voilà, j'ai un problème de maladie. Ou j'ai un problème dans ma famille, dans ce domaine-là. Ou j'ai tel problème à mon travail.
Ou
j'ai tel problème de finance. Si tu priais pour eux d'abord, par rapport à ce problème, étant dans la foi, toi étant dans la foi, si les gens voient une manifestation de Dieu, cela va les aider à ouvrir leur cœur. Ce ne sera pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de gens ingrats. Vous vous rappelez de cette histoire des 10 lépreux dans les évangiles? Ils voulaient tous être guéris, ça c'est sûr. Mais il
n'y
en a qu'un qui est revenu pour dire merci au Seigneur.
Et
Jésus a dit, les autres ils sont où? Ils ont pris ce qui les intéressait de Dieu. Il y a des gens comme ça, vous en rencontrerez aussi beaucoup. Mais ça, ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'amener la puissance de Dieu dans la vie des gens. Leur dire, je te parle de Jésus, mais d'abord, tu vas voir la démonstration de sa puissance. Cette foi d'essence amène les gens à se remettre en question. C'est quelque chose qui est très important et qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens se convertissent quand ils ont d'abord vu Dieu intervenir dans leur vie. Ils sont là, vous avez prié pour eux. D'un seul coup, il se passe quelque chose. J'ai entendu un témoignage ici une fois. C'était une dame qui n'arrivait pas à dormir la nuit. Elle avait des problèmes d'insomnie terribles. Et il y a une sœur qui lui a dit, qui a marché dans la foi, qui a eu cette hardiesse pour lui dire, maintenant je vais prier pour toi et ça sera terminé tes histoires. Et effectivement, elle a prié pour cette personne. Et la nuit d'après, pour une des premières fois, elle a dormi comme un gros bébé. Imaginez-vous l'excellent témoignage que ça ouvre, la porte que ça ouvre après pour le reste. Je
ne
vous dis pas que ça sera toujours comme ça. Je ne vous dis pas que ce sera toujours comme ça. Il y a des gens très ingrats, il y a des gens qui veulent... Ils sont là, ils prennent leur bénédiction et ils partent. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a, ils prendront leur guérison et ils partiront. Il y en a, ils sont dans des galères financières, vous allez prier pour eux. Dieu va intervenir et vous ne les verrez jamais donner leur vie à Jésus. Bon, ça,
ce
n'est pas votre business. Ça fait mal parce que quand on voit une manifestation de Dieu, quand on a prié pour quelqu'un, on se dit, ah, c'est super, maintenant je vais pouvoir l'amener à Christ.
Il
y a des fois, ce sera le cas. Et vous verrez qu'un certain nombre de fois, ça ne sera pas le cas. Ne vous frustrez pas, ne vous découragez pas.
Ce
n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'amener la puissance de Dieu dans votre génération. D'amener la puissance de Dieu dans votre génération. Ça, c'est votre responsabilité. Quelqu'un vous parlez de quelqu'un... de Jésus à quelqu'un, vous priez pour cette personne avec la puissance de Dieu. Et là, vous amenez quelque chose. Là, il voit une manifestation. Avec Aîné, c'est la même chose. Pierre prie pour Aîné. Aîné, le paralysé, se lève. Tout Tous les habitants de Lida, de la plaine de Saron, le virent et se convertirent au Seigneur. Maintenant, verset 36. Il y avait à Jaffa, une ville aussi, au bord de la mer, de la mer Méditerranée. Une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas, elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Verset 38, comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent deux hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusqu'à chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et ils lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elles, au pluriel. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon, corroyeur. Est-ce qu'on peut lire 40 jusqu'à 42 inclus, s'il vous plaît? Merci.
Kuva kuri mirongo ine ngo Petero arabataramura bose, arafuka marasenga, maze ahindukirira umubyimba ati Tabitha vyuka, arakanura, maze abonye Petero aravyuka, aricara, amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima bimenyekana iyo pa hose benshi bizera umwami Yesu.
Donc là on voit encore le même principe.
Aha turabona cya kintu nyene.
Cette femme va ressusciter d'entre les morts.
Uyu mugore yapfuye
arazutse. Ça va être un témoignage pour toute la ville.
Bica biba intahe ku gisagara cyose cyo.
Frères et sœurs, nous devons prier pour des actes de puissance.
Bene data turakwiye gusenga ngo
haze ibikorwa. Parce que quand il y a des actes de puissance,
ibikorwa by'ubushobozi
iyo bibaye, les gens se réveillent au niveau de l'évangélisation.
Abantu barakanguka kubijanye no kuvuga ubutumwa bwiza.
Quand nous manquons d'actes de puissance,
iyo atabikorwa by'ubushobozi bihari,
les gens peuvent se donner à Christ.
Abantu barashobora gukizwa.
Mais vous verrez que c'est beaucoup plus lent.
Ugasanga biza buke buke.
Et aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste comme ça parce qu'ils sont intéressés par Dieu. Quand la puissance de Dieu est quelque part, il y a une crainte qui s'empare des gens. Les gens sont quelque part provoqués. Les rétrogrades aussi sont provoqués. Et ils reviennent souvent au Seigneur.
Ce
n'est pas seulement des gens qu'on fait avancer en disant « Recevez Jésus ». Mais il y a quelque chose qui les a provoqués. Il y a quelque chose qui les secoue. Quand il y a des actes de puissance, le peuple de Dieu et les inconvertis sont secoués quelque part. Les gens se remettent en question.
Hein.
Et il y a une ferveur qui arrive.
Hein.
Parce que les gens sont là et se posent beaucoup de questions. Et ils voient Dieu. Nous avons besoin des manifestations divines. Les gens ont besoin de voir. Ça les provoque quelque part. Ça les amène à croire et à dire vraiment maintenant, je crois que Dieu existe. Dans le sens biblique du terme. Pas seulement dans un sens vague parce que je suis né chrétien, comme certains disent. Mais là, ils voient vraiment Christ agir. Par rapport à quelque chose de spécifique. Là, ils sont provoqués. Et souvent, ça permet de faire plus de chemin. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse qui m'a interpellé. Regardons un peu, on va regarder trois personnages bibliques. Et ce soir, on va parler à propos de la foi.
Mais
c'est vraiment une parenthèse que je veux faire parce qu'on voit transparaître ça dans l'Écriture. À propos des bonnes œuvres que des gens font. Parce que vous savez, souvent, il y a un peu cette opposition entre l'église traditionnelle et l'église protestante. On sait que l'église traditionnelle, souvent, prêche, voilà, il faut faire des œuvres et des œuvres et des œuvres, et je vais gagner la faveur de Dieu. On a tous entendu ça, le salut par les œuvres.
Et
souvent du côté protestant,
c'est
moi je prie, c'est tout. C'est tout. On fait rien d'autre. Je vais vous montrer trois exemples dans la Bible où des gens faisaient des bonnes œuvres et Dieu a agi dans leur situation. Et il y a une petite liaison quand même avec ces bonnes œuvres. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est les bonnes œuvres qui vont amener le miracle. Mais j'aimerais quand même un petit peu, je dirais, Dieu aime quand on pose de bonnes actions. Et on va voir un ange qui va parler à quelqu'un. Et deux personnes pour lesquels on va plaider la cause parce qu'ils ont fait des bonnes choses. Je vais vous montrer deux exemples. Parce que nous devons être provoqués aux bonnes œuvres. Non pas, nous le savons pour le salut est gratuit, mais je crois quand même qu'il y a quand même une espèce de dissonance où vraiment on a tellement été, je dirais, enseigné et tellement envahi par il faut faire ci, il faut faire ça pour plaire à Dieu. Que des fois on est passé à l'autre extrême. Et je crois qu'il y a quand même des erreurs de ce côté-là. Mais je sais que c'est un sujet très sensible dans le milieu protestant.
On va
lire le chapitre 10. On reviendra au chapitre 9. Et je vais vous montrer un troisième exemple. Au verset 10, il a dit « Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, c'est-à-dire il essayait de s'attacher à Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu. » Et faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. » Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, c'est-à-dire qui travaille le cuir, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange lui a parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après lui avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Lisons le verset 3 et 4, s'il vous plaît, en Kirundi.
Murongo gatatu na kane ibyakozwe mu gice cy'icumi ngo abona yeretswe imbona nk'ubona umumarayika w'Imana yinjiwe hari nk'isaha 9 z'umunsi aramuhamagara ati Corneliyo nawe amukanurira amaso afise ubwoba aramubaza ati niki ga mwami aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutso imbere y'Imana.
On remarque que l'ange va lui dire quelque chose qui pourrait nous choquer à la limite.
Il
dit tes prières et tes aumônes. Les aumônes, c'est quoi? C'est donner à des pauvres. On appelait le souvenir de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ici. Réfléchissez à cette parole. Je trouve ça intéressant. C'est l'ange lui-même qui rappelle ces choses à Corneille. L'ange aurait pu lui dire, tu es pécheur.
Il
y a quelqu'un qui va te parler du sauveur. Mais on voit que cet homme essayait de faire le bien malgré sa méconnaissance de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on loupe parfois. Là, c'est vrai, Corneille n'était pas sauvé. Mais Dieu a vu le cœur de cet homme. Il n'a pas sauvé cet homme par ses bonnes œuvres, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais l'ange lui a montré une chose. Il a dit, tes prières qui n'étaient pas bien placées, parce que tes prières n'étaient pas faites au nom de Jésus, ces prières n'étaient pas non plus faites en tant que chrétien né de nouveau. Mais il y avait une soif de cet homme et une détermination à vouloir marcher avec Dieu. Ça a provoqué l'apparition d'un ange. Et l'ange, c'est la chose qu'il est venu lui répéter. Ces choses-là ont été vues par le Seigneur.
Et
il donne un message pour qu'il soit dirigé vers un homme qui va lui parler de Jésus. Revenons à Tabitha. Tabitha a été sauvée.
Verset 9.
Chapitre 9. Et en fait, quand elle va tomber malade, regardez verset
36.
Il est dit, il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha qui se traduit par Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes.
Donc au verset
37, on sait qu'elle meurt, ok? Au verset 38, il demande de venir, comment dire, à Pierre de venir. Et au verset 39, qu'est-ce qu'il est dit? Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Regardez bien, toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas
lorsqu'elle était avec elle.
Et je crois, c'était une plaidoirie de la part de ces dames. Cette dame qui est morte. Pierre, regarde, elle faisait les bonnes choses pour le Seigneur. C'était une sorte de plaidoirie auprès de Pierre. En disant, voilà ce qu'elle faisait. Pourtant, c'était quelqu'un de bien. Vous savez, des fois, le malheur tombe sur des gens qui sont des bonnes personnes. Vous avez remarqué ça? Il y a des fois des choses mauvaises qui tombent sur des mauvaises personnes, mais ça, il les attire.
Mais
là, on voit une sorte de plaidoirie de la part de certaines chrétiennes envers Pierre pour que le cœur de Pierre soit touché. Et qu'il puisse vraiment prendre à cœur cette situation. Moi, je crois que la parole de Dieu veut nous dire aussi des choses comme ça. Vous connaissez, c'est tous Debirich. Et
Debirich,
vous connaissez un peu son témoignage. Je
ne
parle pas de son témoignage de conversion. Je parle là où elle a failli mourir. Au moment où son cœur s'est plus ou moins arrêté. Qu'elle s'est retrouvée d'un seul coup dans un
coma.
Vous savez, quand Rodney Howard Brown a entendu que Debbie Rich, qui était son assistante, quand il a entendu que Debbie était tombée extrêmement malade, qu'elle était dans le
coma,
il a dit une chose.
Il
a dit, Debbie va être guérie parce que c'est une donneuse, c'est quelqu'un qui donne au Seigneur.
Et
ça m'a interpellé cette parole dans son témoignage. Parce que je crois qu'il y a certaines actions que nous plaçons qui sont des choses qui jouent en notre faveur. La foi est une chose importante. Mais je crois que ce que nous semons comme action est quelque chose qui nous rattrapera de la bonne manière au jour de la difficulté. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne font jamais le bien autour d'eux. Ou pas grand chose, disons. Ils vivent leur petite vie chrétienne et ils n'investissent pas chez les autres. Ils sont là toujours en train de demander un truc à droite, un truc à gauche. Ils prient pour eux-mêmes. Ils sont vraiment tournés vers eux-mêmes. Mais ce ne sont pas des gens qui investissent dans la vie des autres et investissent dans le royaume de Dieu. Mais je crois que quand on plaide la cause de quelqu'un, ou qu'en tout cas on prie pour quelqu'un, quand vous voyez que cette personne a fait vraiment de bonnes choses, une des choses que vous allez dire au Seigneur, Seigneur, c'est quelqu'un qui a fait ça pour toi, pour ton royaume. Seigneur, tu vois combien de personnes... cette personne a été en bénédiction. Et Dieu écoute ce genre de choses. Regardez l'écriture. Je vais vous donner un autre exemple. Jairus. Ce que je veux ce soir, c'est vous provoquer dans quelque chose. Parce que souvent, vous savez, on se dit, bon, bah, c'est vrai, on marche par la foi, uniquement par la foi. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même des actions dont Dieu se souvient. Qui viennent à son souvenir. Et qui permettent à sa grâce de couler davantage dans ta vie. À sa miséricorde. Ou t'es dans des moments difficiles. Parce que tu as placé des actions. Parce que tu as été fidèle lorsqu'il t'a demandé de faire. Dieu est rémunérateur de ce qu'il cherche. Mais une façon de chercher Dieu, c'est pas seulement dans la prière. C'est chercher sa manifestation. C'est chercher à faire ce qu'il te demande de faire. À le pratiquer. Il y a quelque chose qu'on doit, dans les actions que nous plaçons, qui attire la faveur de Dieu. Regardons ensemble Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, c'est là où ça ressort le mieux. Cette histoire de Jairus. Jairus, qui était un centenier, un romain. Rappelez-vous que Jésus était venu pour qui ? Pour les enfants d'Israël. Là, Jairus était qui ? Un romain. Un païen. Il avait un serviteur très malade. Et on va voir quel témoignage les gens donnaient de Jairus. Et comment Jésus va réagir. Verset 1, il est dit, après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher, qu'il aimait beaucoup. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent. Regardez bien, donc ils vont plaider la cause d'une manière pressante en disant, il est digne que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru d'aller en personne, digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur Festa, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Alors ici, très souvent, c'est vrai, on enseigne à propos de l'autorité spirituelle. On enseigne à propos de la foi de ce centenier. Et l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension que ce centenier avait. Du monde spirituel. Il connaissait la puissance de la parole ointe. Il va parler. Il savait que Jésus allait parler. Dis seulement un mot, car moi je parle à mes serviteurs. Ils m'obéissent parce qu'ils doivent m'obéir. Parce que c'est moi l'autorité. Et toi, Jésus, dans le monde spirituel, c'est la même chose, et je le sais. Nous savons que c'est la grande leçon de ce texte. Mais souvent, ce qu'on oublie, pourquoi Jésus s'est déplacé en premier lieu? Parce que cet homme avait la foi? Apparemment non, parce qu'il ne s'était pas encore rencontré. Et c'est intéressant de voir comment d'autres personnes ont plaidé la cause du centenier qui ne demandait rien pour lui-même, mais pour son serviteur. Et ils ont convaincu Jésus de venir. Pourquoi est-ce qu'ils ont convaincu Jésus de venir? Parce que cet homme avait posé des actes envers la nation d'Israël. Il avait construit une synagogue. Ces gens étaient touchés parce que Jaïrus avait posé des actions qui montraient qu'il y avait chez lui une soif de Dieu. Mais ils viennent à Jésus en disant, il mérite que tu lui accordes ça. Il mérite. Et Jésus n'a pas dit, mais personne ne peut rien mériter de moi. Vous avez remarqué que Jésus ne va pas dire ça. Jésus ne va pas dire, non, personne ne peut rien mériter de moi, je ne viendrai pas. Non, il a été interpellé par ce témoignage qui n'était pour l'instant que des bonnes actions. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut provoquer notre foi. La foi, ce n'est pas seulement de se dire, bon, ben voilà, j'ai la parole de Dieu, je la médite, je la parle. Ça, c'est vrai que c'est un aspect très important de la foi. Mais je crois qu'il y a aussi un terrain favorable pour voir des choses se produire dans nos vies et dans la vie des autres quand nous posons des actions qui sont conformes à notre foi. Ces gens-là souvent marchaient par ignorance. Mais souvent, je vois des gens qui veulent marcher dans la foi et qui ne posent pas un certain nombre d'actions. D'action relationnelle, d'action au niveau de leur prière, d'action au niveau de ce qu'ils donnent au Seigneur, d'action par rapport à exhorter les autres, à investir chez les autres. Et ils se demandent pourquoi ils n'attirent pas la faveur de Dieu. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens parfois qui disent, oui, moi je prie, je confesse la parole, et il n'y a rien qui bouge dans leur vie. Pose-toi des questions. Quel type de personne tu es réellement? Quelle sorte d'action tu poses envers les autres? Qu'est-ce que tu fais pour investir dans la vie des autres? Dieu ne te donnera jamais une faveur parce que tu es un égoïste. Ces gens-là que nous voyons ici, ces trois exemples que nous avons pris doivent nous enseigner quelque chose. Ça ne nous enseigne pas qu'on gagne la grâce de Dieu en faisant des actions. La grâce, c'est un don gratuit. C'est une faveur imméritée. Mais il y a des choses qui permettent de voir le cœur qui transpire d'une personne. Dans ce que cette personne est capable de faire, d'investir et de se donner pour les autres. C'est ce qu'on voit dans ces trois exemples. On voit très bien Corneille, un païen. Il est là, il aidait les autres. Il avait une grosse capacité financière, donc il donnait aux autres. Mais aussi, il priait certainement pas de la bonne manière, c'est clair. Il n'avait aucun droit en Jésus-Christ puisqu'il n'était pas né de nouveau. Mais ça a attiré quelque chose qui lui a permis d'entrer dans le salut. On aime bien entendre, vous savez, des témoignages de gens qui étaient dans le péché, péché jusqu'au cou. Bandit de grand chemin. Toutes sortes de trucs qu'il faisait. Vous savez, comme il y a certains témoignages où il y a des petits jeunes qui disaient « Moi, j'étais connu, moi, dans toute la ville. » Vous savez, en fait, ils se vendent quasiment avec son témoignage de qui il était, finalement. Bon, et il y a des gens qui ont vraiment des témoignages extrêmement graves, dans le sens où ils ont vraiment vécu des choses, et ils ont fait des choses horribles. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas nés de nouveau, et qui sont nés de nouveau après, qui n'étaient pas nés de nouveau. Et qui posaient certaines actions, mais dans leur ignorance, qui ne sont pas entrés dans le salut. Et ces gens-là, parfois, Dieu les voit. Ils voient leur cœur derrière ce qu'ils font. Mais quand on voit Jaïrus, par exemple, on voit vraiment Jaïrus, le centenier, oui, on voit Jaïrus, le centenier, oui, excuse-moi. Et en fait, on voit cet homme, ce centenier, essayer de je dirais, il veut que son serviteur soit guéri.
On ne
sait même pas pour lui. Mais il a fait des choses pour Israël. Et Jésus vient. Parce qu'il y a des gens qui lui disent, il faut que tu fasses quelque chose
pour lui.
Réfléchissons à ça, frères et sœurs. Réfléchissons à ça. Il y a des actions qui sont posées dans nos vies qui nous attirent la grâce de Dieu. Ce n'est pas que tu gagnes la grâce de Dieu, mais tu l'attires. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui demain te seront favorables. Quand soit quelqu'un priera pour toi, ou soit toi tu prieras pour toi. Recevoir quelque chose de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.